France Culture.
Et le journal est présenté ce soir par Olivier Denré. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Lutter plus efficacement contre l'immigration illégale entre la France et le Royaume-Uni, c'est tout l'objet d'un accord conclu aujourd'hui entre Londres et Paris à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron outre-Manche. 10 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine. Les dirigeants qui participent en ce moment à la conférence de Rome demandent aux hommes d'affaires de ne pas avoir peur d'investir. Alors que la loi pour refonder Mayotte après le passage de la tempête Chido a été définitivement adoptée par le Parlement, le Premier ministre a réuni cet après-midi un comité interministériel des Outre-mer. Il vient de se terminer, consacré justement à la reconstruction de l'archipel, mais aussi à la sécurité et à la lutte contre la vie chère dans les autres territoires. À Paris, Lyon et Marseille, de nouvelles règles du jeu électoral vont s'appliquer pour les prochaines municipales. Le texte a été voté ce matin en toute dernière lecture. Une partie de la gauche et de la droite sénatoriale ont l'intention de saisir le Conseil constitutionnel. Enfin, une convention collective à réécrire. La patronne de France Télévisions a averti hier les syndicats qu'elle dénonçait l'accord en vigueur depuis 2013. Une première réunion de discussion aura lieu à la rentrée. 3 jours de visite d'État au Royaume-Uni et un accord donc très attendu pour clôturer ce déplacement à Londres d'Emmanuel Macron. Les deux puissances européennes actent ce soir un renforcement de la lutte contre l'immigration illégale. Vous avez suivi pour nous les différents temps forts de ce voyage présidentiel de l'autre côté de la Manche. Gaëlle Joly, la question migratoire suscite beaucoup d'attentes chez les Britanniques. À quoi donc s'engagent désormais les gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne ?
Keir Starmer vient de l'annoncer pour la première fois. La France accepte de reprendre des migrants qui ont traversé la Manche. En échange, elle pourra envoyer en Angleterre des demandeurs d'asile qui tenteront la voie légale, a dit le Premier ministre britannique. Londres réclamait ce deal depuis très longtemps et plusieurs obstacles semblent avoir été surmontés, notamment l'opposition de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie. Alors, l'accord n'a pas été chiffré, mais un projet pilote parlait de 50 migrants par semaine renvoyés en France. Cela représente 6% du total des traversées. Paris et Londres devrait le préciser. Par ailleurs, les gendarmes vont pouvoir désormais intercepter les migrants jusqu'à 300 mètres des côtes dans la mer. Le président Macron l'a annoncé sans préciser le cadre juridique. Pour l'instant, cela n'est pas autorisé par le droit de la mer. Keir Starmer a salué cet accord qui va casser le modèle commercial des gangs et qui va enfin résoudre notre problème commun, a-t-il déclaré.
Londres et Paris se sont également engagés à renforcer davantage leur coopération militaire. La protection de l'Ukraine fait évidemment partie de leur priorité. L'Ukraine, dont la reconstruction focalise l'attention depuis ce matin en Italie. Pour la 4e fois depuis le début de la guerre, une conférence internationale réunit des milliers de participants. Si on est encore loin de l'évaluation de la Banque mondiale qui table sur plus de 500 milliards d'euros pour redresser durablement l'Ukraine, à Rome, les pays représentés viennent tout de même de s'engager à mobiliser plus de 10 milliards. Qui met la main à la poche et pourquoi faire ? Élément de réponse avec Bruno Duvic, notre correspondant permanent à Rome.
Quand il s'agit d'aider l'Ukraine, l'Europe est devant et de loin, rappelle Ursula von der Leyen.
Rien que cette année, nous allons couvrir 84% de ses besoins de financement externe.
Les 10 milliards supplémentaires annoncés aujourd'hui sont largement virtuels. L'Europe offre près de 2,5 milliards de garanties bancaires et subventions en espérant que cela incitera le secteur privé en particulier à investir pour compléter l'enveloppe. Et la présidente de la Commission fait le lien entre la reconstruction de l'Ukraine et son adhésion à l'Union européenne, à laquelle elle est très favorable.
Pour des millions d'Ukrainiens, soldats, enseignants, médecins, agriculteurs, l'avenir a deux drapeaux, celui de l'Ukraine et celui de l'Europe.
L'Europe en première ligne au moment où Washington envoie des signes contradictoires à Kiev. Le chancelier Merz le relève.
Mon deuxième message est pour Donald Trump. Restez avec nous, restez avec les Européens.
Cet après-midi, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Kellogg, présent à Rome, participait à une réunion de la coalition des volontaires. Emmanuel Macron et Keir Starmer étaient connectés depuis Londres. Ils appellent à accroître la pression sur Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu.
L'Union européenne dit avoir trouvé un accord avec l'État hébreu pour étendre dans la bande de Gaza la distribution de l'aide humanitaire. Il prévoit cet accord des points de passage et des camions de nourriture supplémentaires, précise Kaya Kallas, la chef de la diplomatie de l'UE. Israël a détruit aujourd'hui un missile balistique en provenance du Yémen, revendiqué par les rebelles Houthis se tire visait l'aéroport de Tel Aviv. Soutenu par l'Iran, le mouvement islamiste yéménite dit également avoir attaqué hier un navire marchand en mer Rouge. C'est la deuxième attaque de ce genre en 24 heures. Une dizaine de personnes ont été secourues. On parle de 3 morts et d'une douzaine de disparus en mer. 2 Éthiopiens ont été exécutés aujourd'hui en Arabie Saoudite pour trafic de drogue. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine d'étrangers ont été mis à mort par le royaume. Ils sont pakistanais, syriens, égyptiens et jordaniens pour la plupart. Amnesty International dénonce une escalade alarmante. L'ONG parle d'un rythme effréné pour des infractions qui, dit-elle, ne devraient jamais entraîner une telle sentence. 7 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui le projet de loi pour refonder Mayotte pour entrer en vigueur. Le texte doit maintenant être officiellement promulgué par le chef de l'État. Il prévoit notamment de débloquer 4 milliards d'euros pour les 6 prochaines années. Il valide aussi d'ici 2031 l'alignement des droits sociaux avec ceux de la métropole. Cette loi programme est loin d'avoir fait consensus au Parlement. La lutte contre l'immigration et l'habitat illégal ont en effet divisé les politiques. Présidé cet après-midi par François Bayrou, le comité interministériel des Outre-mer qui vient de se terminer a évidemment fait le point sur la situation à Mayotte. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Olivier.
Depuis la catastrophe climatique, le 101e département français est en effet devenu l'une des priorités du gouvernement.
Oui, après le passage du cyclone Chido, les travaux de reconstruction sont en cours et vont se poursuivre jusqu'en 2027. Et le gouvernement a élaboré un plan global de développement à moyen terme présenté à l'occasion de ce comité interministériel. Plan qui s'appuie sur la loi pour la refondation de Mayotte adoptée cet après-midi et qui est censé se déployer sur une durée de 6 ans jusqu'en 2031. Il prévoit des investissements à hauteur de 4 milliards d'euros pour bâtir un nouvel aéroport, pour élargir le port, pour construire de nouveaux établissements scolaires, ainsi qu'un nouveau système d'assainissement de l'eau. Le système actuel a été construit il y a plusieurs décennies pour une population de 150 000 habitants. Or aujourd'hui, 320 000 personnes vivent à Mayotte. Il prévoit aussi un durcissement des conditions d'accès à un titre de séjour pour les candidats à l'immigration, notamment en provenance des Comores, et un renforcement des moyens de surveillance et d'interpellation en mer. Il s'agit d'endiguer un phénomène qui fait qu'un quart de la population mahoraise aujourd'hui est constituée de personnes en situation irrégulière. Ce plan prévoit encore, vous l'avez dit, un alignement du niveau des prestations sociales versées aux Mahorais sur l'ensemble des citoyens français d'ici 2031. 2 autres thématiques ont aussi été abordées au cours de ce comité interministériel des Outre-mer, la lutte contre la vie chère. Les mesures mises en place ces derniers mois ont permis d'amorcer une baisse des prix, par exemple en Martinique, d'environ moins 10%. C'est loin d'être suffisant car les prix sont encore de 30 à 40% plus élevés qu'en métropole. Mais c'est un premier pas, fait valoir le gouvernement. Enfin, en matière de sécurité, il y a beaucoup à faire. Près de 30% des homicides en France chaque année ont lieu dans les Outre-mer pour seulement 4% de la population française. Et le taux de violence intrafamiliale y est beaucoup plus élevé qu'en métropole.
Merci Stéphane Robert. L'autre texte définitivement approuvé aujourd'hui par les députés concerne le changement de mode de scrutin pour les prochaines municipales à Paris, à Lyon et à Marseille, validé par une grande partie de la coalition gouvernementale, par le RN et par la France insoumise. Les nouvelles règles du jeu sont assimilées à du tripatouillage électoral par une partie de l'opposition. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Olivier.
À l'instar de la droite sénatoriale qui a voté contre hier, ces forces politiques ont promis de saisir le Conseil constitutionnel. Elles pourraient s'appuyer sur 3 angles d'attaque.
Et l'angle d'attaque que l'on a le plus entendu dans les hémicycles, c'est le calendrier. Changer un mode de scrutin moins d'un an avant des élections, ce serait, selon les opposants à cette réforme, du tripatouillage électoral, sauf qu'aucun principe constitutionnel ne s'oppose à cela et donc il y a peu de chances que les sages censurent le texte sur cet argument. Autre reproche, le cas particulier de Lyon. Depuis 2015, les Lyonnais mettaient 2 bulletins de vote dans l'urne au moment des municipales. Un pour leur mairie d'arrondissement, l'autre pour la métropole du Grand Lyon. Si le texte est promulgué, ils devront en mettre un 3e pour la mairie centrale. Trop compliqué pour les partisans du statu quo, de quoi fausser l'intelligibilité du scrutin. Mais là encore, rien dans la Constitution ne s'oppose à ce que l'on vote 3 fois lors d'une même élection. Ce qui pourrait poser problème en revanche, c'est l'article 40 de la Constitution auquel sont soumises les propositions de loi, article que nous décrypte le constitutionnaliste Benjamin Morel.
Une proposition de loi ne doit pas créer de coûts supplémentaires. Or là, en la matière, quand vous rajoutez une élection, vous créez des coûts. Parce qu'il faut produire la propagande électorale, il faut produire le jeu de bulletin, il faut sortir une nouvelle urne. Tout ça a un coût. Et dans ce cadre-là, le Conseil constitutionnel pourrait s'engouffrer dans cette brèche pour déclarer la loi inconstitutionnelle. Mon point de vue, c'est le motif le plus sérieux.
Le Conseil constitutionnel pourrait censurer le principe même du texte et dans ce cas, c'en serait fini de cette réforme, au moins pour les prochaines élections. Il pourrait aussi censurer uniquement la disposition relative à Lyon, ce qui limiterait la casse pour ceux qui espèrent surtout que cette réforme s'applique à Paris.
Merci Antoine Marette. À l'exception de Carcassonne, il n'y aura aucun feu d'artifice le 14 juillet dans le département de l'Aude. Il s'agit d'une décision préfectorale après l'incendie, évidemment, qui a ravagé 2000 hectares de végétation cette semaine près de Narbonne. La vente et l'usage d'artifices de divertissement sont aussi interdits jusqu'à la fin du mois. Si 9 lycéens sur 10 ont pour l'instant obtenu au moins une réponse aux vœux qu'ils ont formulés sur la fameuse plateforme Parcoursup, plus de 103 000 élèves attendent toujours ce soir une proposition pour la rentrée prochaine. Ce chiffre a sensiblement augmenté par rapport à l'année dernière. Le système est-il victime de son succès? Il prévoit en tout cas des recours devant les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, à l'instar de celles visitées aujourd'hui dans l'Académie de Versailles par le ministre de tutelle. Star reportage d'Hakim Kasmi avec les moyens techniques de Romain Lucquens.
La hausse du nombre de lycéens sans affectation s'explique en grande partie par l'augmentation du nombre de candidats au bac professionnel, comme l'explique Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cette année, Parcoursup a enregistré 980 000 candidats, soit 35 000 de plus qu'en 2024. Cette hausse, elle concerne principalement les lycéens, en particulier des voies professionnelles, avec une croissance de près de 11%, et les étudiants en réorientation, qui sont passés de 169 000 à 183 000.
Quant aux lycéens sans affectation, ils peuvent solliciter à partir d'aujourd'hui la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Autour de la table, des représentants du rectorat, des lycées et des universités. Chaque dossier est analysé scrupuleusement.
Ils ne voient pas le résultat du bac.
Donc ils voient pas cet élément-là. 8 de moyenne toute l'année dans les enseignements.
Mais pour libérer les places, il est également important que ceux qui ont déjà eu plusieurs réponses positives ne les bloquent pas. En effet, l'année dernière, ce sont ainsi 160 000 places qui ont été perdues, comme nous l'explique Meglena Geleva, la vice-présidente de l'Université de Nanterre.
Tous les ans, nous avons des candidats qui reçoivent des propositions, qui les acceptent, mais qui ne s'inscrivent pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous regrettons. Nous essayons vraiment de sensibiliser toutes et tous sur la nécessité de démissionner parce qu'effectivement, un candidat qui ne démissionne pas, c'est une place qui ne peut pas être accordée à quelqu'un d'autre.
L'année dernière, au niveau national, sur les 19 000 candidats sans affectation qui ont sollicité les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, seuls 134 étaient restés sans affectation.
Delphine Ernot tient ses promesses et fait même du zèle avant même une éventuelle fusion de l'audiovisuel public. La patronne de France Télévisions vient d'annoncer à tous les syndicats de l'entreprise qu'elle dénonçait officiellement la convention collective qui date de 2013 et qui concerne tous les salariés du groupe. Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir.
Officiellement, Delphine Ernotte a désormais 27 mois devant elle pour revoir à la baisse un texte qui définit les conditions de travail, les salaires, les congés payés, mais aussi les droits et les devoirs de l'employeur et des salariés. Les syndicats ont été un peu pris de court pour le moins.
Oui, on connaissait déjà les intentions de Delphine Ernotte précisées lorsqu'elle a passé son grand oral devant l'ARCOM en mai dernier avant d'être nommée pour son troisième mandat. Mais les syndicats n'imaginaient pas un tel empressement juste avant les vacances, alors que la réforme de l'audiovisuel qui rassemblera France Télévisions, Radio France, l'INA et possiblement France Média Monde dans une holding terminera a priori son parcours législatif en septembre prochain. Pierre Mouchel est délégué central CGT de France Télévisions.
C'est quand même d'une grande brutalité sociale, surtout dans le contexte actuel où on est en pleine incertitude sur l'évolution de l'organisation de l'audiovisuel public. C'est un coup de massue supplémentaire sur la tête des salariés.
Delphine Ernotte justifie la précipitation par l'urgence de moderniser le groupe face aux défis du numérique, des réseaux sociaux et du développement de l'intelligence artificielle. Le besoin de se réorganiser pour aller vers la polycompétence, explique-t-elle. Mais il y a aussi les enjeux financiers actuels et à venir. France Télévisions devrait finir l'année avec un déficit d'environ 50 millions d'euros et le contexte budgétaire se tend avec les économies que prévoit de faire le gouvernement.
L'objectif réel, c'est faire baisser la masse salariale, c'est diminuer donc le nombre d'emplois, et ça passera évidemment par la mise en place de polyvalence sur les métiers, donc de dégradation des conditions de travail, avec un budget toujours en décroissance. Et donc, finalement, pouvoir restaurer l'équilibre économique de l'entreprise sans pour autant augmenter les ressources publiques.
Et c'est aussi, craignent les syndicats, se débarrasser très rapidement d'un accord collectif avec des dispositions avantageuses pour les salariés en cas de plan social. Une étape justement redoutée une fois la holding actée. Les négociations sur le nouvel accord devraient débuter début 2026. Le précédent avait nécessité pas moins de 4 années de discussion.
Merci Adrien Toffolet. Un ciel instable et des orages demain sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le soleil sera bien présent. Les températures seront en hausse de 14 à 21 degrés. Au lever du jour, c'est la fin de ce journal avec à la technique ce soir d'Ali Yala.